Bienvenue sur l'antenne de Graphite tous les samedis entre 12h et 13h après Vibra SOS. Vous retrouvez Biotine, l'émission de science sur Graphite, tous les samedis entre 12h et 13h. Nous parlons de l'actualité scientifique. Je m'appelle Jean-Laël, je suis très heureux de vous retrouver pour ce samedi 25 janvier. Nous allons, là encore, pendant une petite heure, feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique, technique et médicale pour nous informer de ce qui se passe dans le monde, sur des choses qui vont nous concerner, peut-être dans un avenir proche. On verra tout ça dans cette émission. Vous écoutez Biotine sur Radio Graphite 94.9 sur la bande FM pour ceux qui nous écoutent dans l'Aisne, l'Oise et la Somme, et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet en direct ou en différé, parce que vous avez bien sûr la possibilité de pouvoir récupérer tous les podcasts des émissions de Graphite. Et vous suivez bien sûr aussi l'actualité de Graphite sur la page Facebook, sur le compte Twitter. Bref, vous avez tous les moyens maintenant mis à votre disposition pour pouvoir suivre l'actualité de cette radio curieuse, Radio Graphite bien sûr. Aujourd'hui, 25 janvier 1755, c'est la création de l'université de Moscou. Et en 1994, le lancement de la sonde lunaire Clémentine, c'est mignon ça, par la NASA, c'était un 25 janvier. Il est né aussi un 25 janvier 1843, c'est le mathématicien allemand Hermann Amandus Schwarz. Et ses travaux sont marqués par une forte interaction entre l'analyse et la géométrie. Né donc un 25 janvier 1843 et mort en 1921 à Berlin. Le décès le 25 janvier 1994 du mathématicien et logicien américain Stephen Cole Klein. Il est connu pour avoir fondé la branche de la logique mathématique qui porte le nom de théorie de la récursion en collaboration notamment avec Alan Turing. Stephen Cole Klein est donc décédé le 25 janvier 1994 à Madison dans le Wisconsin, mathématicien et logicien américain. Voilà, ça c'est l'éphéméride de ce 25 janvier. Déjà 25 janvier, comme ça passe vite. L'année 2020 va passer une vitesse, j'ai l'impression, c'est assez effrayant bien sûr. Au niveau de l'actualité, on va parler des débats sur les additifs alimentaires qui font rage en ces temps de suspicion nutritionnelle où une partie non négligeable de la population pense que l'industrie agroalimentaire veut nous empoisonner. En réalité, le sujet est bien plus complexe qu'on ne le croit. Si certains additifs alimentaires sont suspectés d'aggraver tel ou tel problème de santé ou alors d'impacter négativement notre microbiote, eh bien une grande majorité semble digne de confiance. Dans le cadre du projet OCALI, l'Observatoire de la qualité de l'alimentation, l'INRA, l'Institut de recherche agronomique et l'ANSES travaillent main dans la main et nous éclairent sur l'évolution de l'utilisation des additifs alimentaires en France. Sur une période qui date de 2008-2012 et ensuite 2012-2018. Et donc, il y a un nouveau rapport qui a été publié. Et c'est assez intéressant parce que les experts ont analysé plus de 20 000 produits sur une durée de 10 ans. Et donc, c'est intéressant parce qu'on est sur une base d'analyse assez conséquente. La conclusion, c'est qu'on est passé de 13 à 18% de produits sans additifs et que parmi ceux présentant des additifs dits d'intérêt, donc c'est un petit peu ceux qui sont controversés dans leur liste d'ingrédients en premier suivi, eh bien, ils sont 4 000 à ne plus en contenir. Donc, c'est assez intéressant. Pour Thibaut Fiollet, qui est ancien expert en évaluation des risques à l'Autorité européenne de sécurité des aliments, eh bien, cette diminution de l'utilisation des additifs est en lien avec la demande du consommateur. En France, la majorité des produits transformés contiennent moins de 3 additifs. C'est assez intéressant. Si cette baisse semble réjouir le consommateur, eh bien, il a été demandé à Thibaut Fiollet si les additifs les plus utilisés, que sont par exemple l'acide citrique, les amidons modifiés, les lécithines et les diglycérides d'acide gras, est-ce que tout ça pouvait poser problème? Parce que c'est un petit peu la question qui est importante. Alors, il répond que l'acide citrique où la lécithine sont retrouvées naturellement dans certains aliments, le citron, le pamplemousse, hein, pour l'acide citrique bien sûr, et dans le jaune d'œuf ou l'huile de soja pour les lécithines. Ces derniers ne possèdent pas de dose journalière admissible, et donc ça peut être intéressant. Alors, ce sont les viennoiseries et les desserts surgelés, les produits traiteurs frais, ainsi que les glaces et les sorbets qui obtiennent la palme d'or des produits avec le plus d'additifs. Et comme on entend assez souvent parler d'effet cocktail à tout va, eh bien, Thibaut Fiollet rappelle que cet effet cocktail, c'est-à-dire qu'au cours d'un repas ou d'une journée, être exposé à plusieurs substances, hein, c'est ça l'effet cocktail, eh bien, concernant les additifs, sa réponse est « on ne peut plus clair ». Actuellement, l'évaluation des risques alimentaires se base sur des évaluations individuelles. Seules les substances actives ayant le même mécanisme d'action toxique et issues d'une même classe chimique font l'objet d'une évaluation du risque cumulé. L'exposition au mélange de différentes substances est d'un enjeu croissant. Cela peut être dû en partie au fait que différents produits chimiques ont le même effet ou un effet antagoniste, ce qui renforce ou atténue l'effet de l'autre substance, et en partie au fait qu'un produit chimique peut avoir une influence sur la manière dont un autre produit est absorbé, qui peut être répandu ou éliminé dans le corps. Et donc, il peut en résulter des effets négatifs, et c'est ça qui peut être intéressant, ou alors parfois amplifié, et là, ça peut être beaucoup plus, un petit peu plus dur. Donc, il ne faut pas voir un éloge de la crédulité ou encore une invitation à ne plus se poser de questions, bien au contraire. En fait, l'idée, c'est un petit peu de remettre, de la raison et des faits dans la perception des risques. Et dans une petite étude qu'il a conduite et publiée sur son blog, je vais y arriver, Thibaut Fiollet montre à quel point la perception du risque concernant les additifs est disproportionnée par rapport au risque réel. Donc il faut continuer à s'interroger de façon méthodique, mais il faut aussi arrêter peut-être d'instaurer une espèce de panique générale sur des sujets dont nous ne savons rien. C'est très souvent le cas, en fait. Donc il faut essayer d'avoir des analyses scientifiques concrètes, justifiables et infaillibles. Et certaines entreprises privées commercialisant des produits biologiques ne sont pas également innocentes. Enfin, rappelons que la consommation de produits transformés et ultra transformés doit être l'exception et non la règle, bien sûr, si l'on souhaite prendre soin de sa santé. Donc voilà, cette analyse montre que les industriels utilisent de moins en moins d'additifs alimentaires parce que quelque part les consommateurs l'exigent, mais que c'est pas encore totalement rassurant, en clair, cette analyse et cette étude de l'ANSES et de l'INRA. C'était intéressant parce que ça permettait, voilà, d'avoir une analyse un petit peu plus concrète sur une base un petit peu étendue d'aliments de notre quotidien. Et il faut toujours continuer, bien sûr, à être vigilant, bien évidemment. Biotine, c'est de la science, de la technologie, de la médecine et de la musique.
Yeah, it's all gravy somewhere to my man Fady. Blazing haze daily has made me mad lazy. But keep an ancient spell the ladies they once gave me. You might just break it out when it's that time to punch a baby. Going batshit crazy with my brother J. Davies OBE. The flicker of the candlelight reveals three purebred rhymers and it's end with the fountain pens. When it comes to dicks, bruh, you can suck a mountain of them. Ceramic shrines and biodynamic wines. And damaged vibes and beasts and distinctively left-leaning. But stopping short of identifying as communist. The retire your shame and the Vimaholics Anonymous. The commonest, the chronic lung affections on the list. The need to respirate and get it off the chest. And every lesson stays a blessing despite the collateral damage. The youth starvise is a prayer for the bandits. Greener rock is Mike and the baguette. F spat his first verse to cassette. Jay's widely known as the Archbishop of Smashington. Pass the glass of rum, take cover when the rapture comes.
Aaron, did you just say fuck again?
Family!
Who?
Kenny!
I'm sick, baby, fat, fat.
How would you like to go see the school counselor?
How would you like to suck my balls?
Ha! The warp-minded, slightly perv-blinded. I dig slap your bird in the face and won't bat an eyelid. I suffer from Tourette's, I think, but doctors can't find it. The gappy tooth, red-eyed pyro, come try it. I'm a sick individual, known for a physical. Get high, your most drugs and your mum's covered is criminal. I ain't no junkie, I'm just slightly medicinal. The pinnacle of syllables, egotistical, win them all. Lift speeches, clocking our chicks in them sandy white beaches. The round peaches, they turn out to be your nieces, taking a piss. I'll put them straight up on my guest list. Beer drinks, many sink. Green and FP and myself, some nice cheese in the backstage. A raw man, a cheeky little line. See the rock and roll ting, family ting. It's why we only work with people that we like and keep it vibes in. My debut EP, my man's been doing this for years. Fuck your cliche with your blood, sweat and tears. While I'm on the beers, I'm out now, so gather round. So you can pay homage to the used to while I put the fucking mic down.
Alright, sir, I just need to check inside your asshole. I don't need you wiping my ass for me. I'm a grown man. Yes, you're a big boy, aren't you, sir? Yeah, I'm a big boy. That's a big boy, sir. I'm a big boy. Yeah, I took a big boy poop.
And when the rhyme heaters come out, the sheath flies, and your readers in the south put mouth to D. With the ounce of weed, there is no doubt you'll see which one of these three is acting the loudest. C. UNT. Yeah, we talk shit, tossing all toddlers head first in the marsh pits. Toxic, boss spit, never lost it. Turn offspring of bling friends into orphans. Pour on the sauce in the form of a pen stroke, sprinkling the herbs over instrumentals. Beast mode gentlemen when we enter in with a gin, a bing and a Cartman intro. While most folks know no more than Jon Snow, this flow cold plugs the knowledge hole. Raw soul to the tip of the follicles. You are now rocking with the kings of the audio. Audio.
Words mean a great deal to us. It's just a bold new way that we can say we don't f***ing care.
Eh ben, bravo, effectivement, Cookie Banter, c'était Youth Star sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informé de l'actualité scientifique sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et Graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Selon le baromètre OpinionWay de la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale 2019, l'indice global des Français vis-à-vis de leur santé et de leur bien-être est de 57 sur 100. C'est un score un peu plus faible que celui observé l'année d'avant, qui était de 59. L'étude a été réalisée sur à peu près 1000 personnes interrogées. Les résultats ont été dévoilés. Ils tiennent compte de nombreux critères évalués par les personnes sondées, la santé physique, la santé mentale, l'image de soi. Alors, concernant l'accès aux soins, le bilan est globalement positif. 61% jugent le système de santé français d'excellente qualité, 59% pensent qu'il y a suffisamment de structures hospitalières dans leur région, 45% estiment qu'il y a assez de professionnels de santé dans leur région. Toutefois, 55% des Français, plus de la moitié, jugent le délai d'attente trop long pour être admis à l'hôpital en dehors des urgences et de la maternité. Le frein pour recevoir des soins semble davantage s'illustrer dans le budget. 18% des sondés ont renoncé à aller chez un médecin généraliste pour des raisons financières. 18%, c'est énorme. C'est 12 points de plus que l'année dernière. La pénurie de médicaments se ressent également. 23% des Français ont dû renoncer à des traitements en raison de leur indisponibilité en pharmacie. L'enquête révèle par ailleurs un jugement assez critique des personnes qui ont été interrogées envers leur propre mode de vie. Il y en a 23% qui disent fumer trop de cigarettes, 31% qui pensent être addicts à Internet, 13% déclarent une consommation excessive d'alcool. Les réponses des personnes interrogées suggèrent une nécessité de faire des progrès pour parvenir à une hygiène de vie plus saine. Il y a 38% des Français qui estiment qu'ils font suffisamment de sport ou d'exercice physique. Seulement 38%, c'est pas énorme. Il y en a 45% qui font des insomnies, 35% qui considèrent ne pas manger assez de fruits et de légumes. Sur le plan psychologique, près d'un Français, d'une personne interrogée sur 5, indique ressentir une dépression sévère à modérée. C'est quand même pas anodin, presque 20%, et qui se disent souvent et très souvent anxieux, un sentiment qui n'est pas étranger à la sphère professionnelle. 40% des personnes interrogées déclarent subir un fort stress dans le cadre de leur travail ou de leurs études. L'enquête s'est également intéressée à la perception que les Français ont de leur travail. Donc, 54% des Français estiment faire un travail vraiment utile pour la société. Sauf qu'ils étaient 72% l'année dernière, donc on passe de 72 à 54. Ok, c'est pas génial. Le plaisir lié à l'activité professionnelle est lui aussi moins élevé que l'année dernière, puisque 43% des Français considèrent que leur travail leur procure une réelle source de bien-être, donc moins de la moitié. En dehors du travail, certains sujets semblent contribuer à l'anxiété des Français, notamment l'écologie qui figure en tête des préoccupations des sondés. Plus des trois quarts des personnes interrogées se disent très inquiètes pour la dégradation de l'environnement. Voilà, c'est les derniers sondages du baromètre OpinionWay de la Mutuelle Générale d'Éducation Nationale 2019. Donc voilà, c'est pas du tout réjouissant tout ça, parce qu'on voit que les Français sont anxieux, insomniaques, ils se sentent stressés au travail, et puis certains se sentent même dépressifs. Eh bien, dites donc, mes enfants, va falloir rétablir tout ça, parce que ça va pas être génial. Mais en tout cas, c'est toujours intéressant aussi d'avoir un instantané sur l'état émotionnel des Français. Autre chose, une équipe de chercheurs des universités du Massachusetts et de Stanford ont créé une nouvelle approche pour empêcher le comportement indésirable des machines intelligentes. Ah, ça y est, on revient encore à l'intelligence artificielle. Ces chercheurs ont créé une espèce d'infrastructure logicielle pour empêcher les erreurs dans l'intelligence artificielle. On sait que ça a fait de grands bonds en avant, avec notamment l'apprentissage profond, ce qui permet d'atteindre des taux d'erreur assez faibles sur de nombreuses tâches, par exemple ce qui est le cas de la reconnaissance faciale. Cependant, on sait qu'il existe des situations où aucune erreur n'est tolérée et les systèmes actuels mettent la responsabilité sur l'utilisateur final qui doit régler le niveau de sensibilité, ce qui a une influence sur le taux et le type d'erreur sans nécessairement en comprendre le fonctionnement. Et donc les chercheurs ont mis en évidence le problème avec deux cas concrets. Le premier est la prise en charge par l'intelligence artificielle, la prise en charge d'une pompe à insuline afin de gérer automatiquement le traitement des patients diabétiques. Les taux d'erreur acceptables est extrêmement réduit, un surdosage pouvant entraîner bien sûr un coma. Et le second cas est la prédiction des notes à l'université en se basant sur les examens d'entrée, ce qui induit généralement un biais un peu sexiste, nous dit-on. Alors pour empêcher ces erreurs, ces chercheurs ont créé des algorithmes spécifiques et ils mettent en place des limites que l'intelligence artificielle ne doit pas franchir. Et comparé à d'autres approches plus classiques, les résultats ont montré une nette réduction des cas d'hypoglycémie chez les patients diabétiques et une meilleure fiabilité dans la prédiction des notes pour les étudiants. Donc voilà, il y a un algorithme pour éviter que les robots ne prennent des erreurs, enfin fassent des erreurs et s'en prennent aux humains au final, parce que quelque part ça peut avoir une atteinte, notamment dans le cas des diabétiques. Et donc du coup, on a pu, pour éviter d'avoir des conclusions assez dramatiques et pour limiter le taux d'erreur, créer donc cette espèce d'infrastructure logicielle pour encadrer l'action de l'intelligence artificielle. En début d'année, pour l'émission du 4 janvier, je crois, on avait fait un petit peu le point sur la décennie 2010 et on avait bien noté que l'un des points marquants de cette décennie 2010, c'était l'intelligence artificielle. Ça sera encore le cas en 2020, ça c'est certain. Mais il va falloir bien sûr contrôler tout ça, parce que autant la technologie, elle, avance et ne nous attend pas, autant il va falloir maintenant essayer de prendre en considération certaines choses et être très attentif. Et donc voilà, on commence maintenant à essayer de mettre en place des barrières de protection, peut-être quelque part, pour essayer de faire attention aux certaines dérives qu'il peut y avoir, notamment dans le cadre de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Allez, on écoute un autre titre sur l'antenne de Graphite et on se retrouve juste après. On va écouter, je crois cette fois, c'est Sueur sur l'antenne de Graphite. À tout de suite.
Dans les bas-fonds de nos faux airs, des peuples noyés, victimes des noires marées, créent leur patrie invisible aux yeux des conquérants sans cœur. À qui restera-t-il une carte quand les mises seront trop fortes, même pour des pleurs? Appel, appel aux essences reines des agonies anciennes. En manque de magie noire, nous ne couchons pas trop tard. Ils paraît que la bête sort à l'aube et que cette aube est glacée dans les bas-fonds de nos faux airs. Quand la logique n'existe pas, mes rêves par toi existent. Quand la logique n'existe pas, mes rêves par toi existent. Dans les bas-fonds de nos faux airs affectifs, tu es tellement peu fiable. C'est minable d'abîmer de beaux liens. Je veux pas prendre cette route de solitaire. Les miens ont causé mon manque paramilitaire. Extinction de bonne apparence. J'ai pas besoin de style, qu'est-ce que tu penses? Pourquoi veulent-ils connaître notre famille? Pour des billes. Quand la logique n'existe pas, mes rêves par toi existent. Quand la logique n'existe pas, mes rêves par toi existent. Dans les bas-fonds de nos faux airs se cachent désirs, jeux et mépris. Ce qui nous rend invincibles est de se sentir présent quand on s'oublie entièrement pour l'autre. Quand la logique n'existe pas, dans les bas-fonds de nos faux airs inconnus, bien visibles, peut-être que j'avancerai vers toi un jour. Je viendrai dévoiler des mystères et des surprises nous attendront au coin d'une autre rue. Rien que pour nous, célibataires, célibataires, et bien endurcis par le poids de l'homme, mes rêves par toi existent. Quand la logique n'existe pas, mes rêves par toi existent. Quand la logique n'existe pas, mes rêves par toi existent. Quand la logique n'existe pas, mes rêves par toi existent. Quand la logique n'existe pas, mes rêves par toi existent. Mes rêves par toi existent.
Quand la logique sueur sur l'antenne de Graphite, vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informé de l'actualité scientifique et politique parfois, parce que science et politique sont parfois travaillent ensemble, enfin travail c'est peut-être pas le grand mot, mais en tout cas on peut évoquer le projet du gouvernement de tester la reconnaissance faciale dans les lieux publics. Alors ça a été annoncé récemment et ça a fait un petit peu débat. Au départ, il s'agit d'une interview de Cédric O, le secrétaire d'État au numérique, qui répond aux Parisiens à des questions sur la biométrie et notamment la mise en place du système Alicem. C'est une application qui permettra de se connecter au service public à l'aide de son smartphone et de la reconnaissance faciale. Et pour l'instant, c'est en stand-by et ça reste donc en phase de test. Et à propos de tests et de reconnaissance faciale, on apprend dans cet article que Cédric O, donc le secrétaire d'État au numérique, révèle que la biométrie pourrait bientôt apparaître dans les lieux publics. Je cite, « Le gouvernement souhaite donc ouvrir une phase d'expérimentation de 6 mois à 1 an sous la supervision de la société civile et des chercheurs. Cela doit nous permettre d'avoir des retours sur les différents cas d'usage et sur la performance réelle de cette technologie, ainsi que sur les questions qui se posent. » C'est ce qu'explique donc Cédric O. Alors concrètement, pour les personnes consentantes, selon le règlement RGPD, qui est le registre général de la protection des données, il sera possible d'être identifié sur les caméras de surveillance. Pour quelle utilité? C'est toute la question et c'est ça qui fait un peu débat. On évoque les gares et les aéroports pour pouvoir accéder au quai ou à la zone d'embarquement sans sortir son billet. Il y a des applications concrètes qui inquiètent des organisations, dont la Ligue des droits de l'homme, qui craignent en fait une dérive sécuritaire et une utilisation exclusivement répressive de la vidéosurveillance. Donc voilà, le gouvernement met en place un projet pour tester la reconnaissance faciale dans les lieux publics. On est maintenant dans une phase, la partie technique, parce que derrière c'est de l'intelligence artificielle, elle est développée, elle est bien sûr améliorée, optimisée, mais quelque part on commence à gérer d'un point de vue technique. Et là, on se pose maintenant des questions d'ordre éthique. Voilà, et on, sur plein de sujets, et très souvent dans cette émission, on en parle d'un point de vue médical, là, d'un point de vue des nouvelles technologies de l'information, on est dans des sujets où finalement, est-ce qu'on est en train de légiférer a posteriori, c'est-à-dire parfois en retard, et qu'on n'a pas anticipé certaines choses. Et la deuxième chose, c'est des dérives qui peuvent évidemment exister avec l'emploi de ces technologies à bon escient ou non. Et donc, ça fait un peu débat. En tout cas, voilà, c'était un article dans Le Parisien qui a fait pas mal parler et qui va continuer à faire parler, bien sûr. Et on suivra cette étude au cours de cette année 2020. On suivra cette phase de test, justement, pour voir un petit peu l'intérêt, l'utilité, l'utilisation de tout cela. Est-ce que objectivement, il y a un intérêt d'avoir une reconnaissance faciale sur les quais de la gare, tout ça pour éviter qu'on sorte notre billet. Enfin, si on en est à ce point-là, c'est quand même un petit peu particulier, parce que derrière, il y a quand même une utilisation énergétique conséquente, parce qu'il va falloir installer pas mal de choses. Derrière, ça va quand même aussi coûter assez cher. Est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça en vaut la peine? Je n'en sais rien, objectivement, je ne sais pas. Chacun doit se poser la question, mais voilà, c'est vraiment des sujets qu'il va falloir assez rapidement évoquer, mettre sur la place publique, parce que voilà, la technologie, elle, a beaucoup d'avance sur une réglementation qui, elle, a beaucoup de retard. Et donc, il va falloir essayer de compenser ce retard, ou tout au moins de parvenir à un équilibre judicieux, efficace, et qui fasse le bien de tout le monde, ou en tout cas le plus de personnes. C'est assez utopique peut-être comme argument, mais bon, essayons de voir tout ça. C'était assez intéressant quand même de voir que le gouvernement français se lance sur une phase de test de reconnaissance faciale dans les lieux publics. On verra les résultats de tout ça, bien sûr. Allez, encore un peu de musique et on continue à étudier avec intérêt l'actualité scientifique. J'ai envie de parler de toilettes. Alors, comme je sais que nous sommes à l'heure du déjeuner, que vous êtes à table, je vous souhaite un bon appétit. Je vous préviens que juste après le titre qu'on va écouter, on parlera des toilettes. We'll be right back. Bright Light, c'était Iguana Death Cult sur l'antenne de Graphite. Et comme c'est pas mal, je trouve, comme album et comme groupe, on écoutera un deuxième titre dans quelques instants, bien sûr, le temps que je positionne. Voilà la platine sur le bon numéro, le bon titre, je vais y arriver. Bon, alors je vous avais prévenu, on va parler des toilettes. 6 litres d'eau, c'est ce qui part hein, dans nos toilettes chaque fois qu'on tire la chasse. Chaque jour, on estime à plus de 140 milliards de litres la quantité d'eau qui est ainsi utilisée, une quantité d'autant plus colossale qu'aujourd'hui, des millions de personnes souffrent d'une pénurie d'eau. Effectivement, c'est quand même assez aberrant. C'est pourquoi des chercheurs de l'université de Penn State aux États-Unis se sont penchés sur la question. Ils ont mis au point un revêtement qui peut être appliqué en spray sur les cuvettes de toilettes en céramique. L'opération se déroule en réalité en 2 étapes. Par l'application préalable d'un composé qui s'appelle le PDMS, le polydiméthylxyloxane, je vais y arriver, et lorsqu'il sèche, eh bien, il forme des chaînes moléculaires qui ressemblent à des cheveux, mais avec un diamètre d'environ 1 million de fois plus petit, de quoi créer une surface très lisse qui adhère à la surface des toilettes. Et dans une seconde étape, il y a une très fine couche de lubrifiant à base d'huile de silicone qui est pulvérisée autour de ces poils très petits, nanoscopiques, et la surface devient alors extrêmement glissante. C'est ça qui est intéressant, ce que ça permet d'envisager d'éliminer les résidus liquides, solides de la cuvette avec seulement une fraction de l'eau qui va être nécessaire. Et 90% des bactéries responsables des maladies infectieuses sont également éliminées, ainsi que les odeurs. C'est quand même intéressant. Une solution qui a été inspirée aux chercheurs par une plante carnivore, la saracénie, qui a développé une surface interne particulièrement glissante pour capturer ses proies. C'est quand même assez génial. C'est-à-dire que les insectes glissent totalement, ils ne peuvent se raccrocher à rien et pof, la plante les capture. Elle pourrait même être employée, cette solution, dans les toilettes sans eau également. Une solution largement employée dans le monde là où l'eau manque à cet usage. Alors, l'objectif, c'est de rendre leur utilisation plus sûre et prévenir ainsi l'apparition de maladies parfois mortelles, notamment pour les enfants. Mais donc, un revêtement glissant pour économiser de l'eau dans les toilettes, j'allais dire, c'est enfin mis en place. Ça a été conçu. Maintenant, il va falloir le déployer parce qu'à ma connaissance, en France, j'en ai encore pas vu. Mais voilà, ça pourrait peut-être être une solution miracle, nous permettre de gaspiller un petit peu moins d'eau. Et ce qui est intéressant, et c'est très souvent le cas, c'est qu'on s'inspire de la nature, et là en l'occurrence d'une plante carnivore. Question, quel est le plus vieil arbre du monde ? En fait, c'est pas simple. C'est pas évident de déterminer l'âge d'un arbre. En fait, on a une seule solution. C'est ce qu'on appelle la dendrochronologie. C'est bien sûr d'avoir accès, de compter les cernes de croissance de l'arbre un par an, et on les compte, hein, on a tous fait ça. C'est une méthode qui est totalement efficace, bien sûr, mais enfin, elle est un peu radicale, parce qu'il faut quand même abattre l'arbre. Donc, pour savoir qu'elle agit là, on doit l'abattre. Donc, on doit le tuer. C'était un petit peu idiot. Mais au moins, on sait, on peut désigner, à titre posthume, bien sûr, quel est l'arbre le plus vieux du monde. Eh bien, on a quelques résultats qui sont assez intéressants pour déterminer l'âge de certains arbres. Alors, on a par exemple déterminé l'âge d'un pin de Brittlescone qui poussait dans le Nevada aux États-Unis, et on a compté, et on en est à plus de 4800 ans. Un arbre de plus de 4800 ans, c'est quand même pas mal. Cet âge n'est qu'une approximation, hein, parce que, comme c'est souvent le cas avec des arbres très vieux, les cernes les plus anciens ont disparu, parce que l'arbre est creux au niveau de la souche. Donc, effectivement, peut-être qu'il est encore plus ancien. Il y a un autre pin également, qui est à peu près dans les mêmes années aussi, qui avait été trouvé au même endroit. Donc, on en est à 4800 ans. La détermination de l'âge se fait donc par cette méthode méthode de dendrochronologie, mais il y a aussi la méthode du carottage, c'est-à-dire que le tronc a été foré pour essayer de prélever un cylindre de bois qui va s'étendre de l'écorce jusqu'au centre de l'arbre. Alors l'avantage, c'est que au moins on laisse l'arbre en vie, et puis ça nous permet aussi de pouvoir calculer donc le nombre de cernes. Alors c'est pas souvent efficace parce qu'il est assez difficile des fois d'atteindre exactement le cœur de l'arbre et donc d'extraire les plus anciens cernes de croissance. Donc c'est pas toujours, c'est parfois un peu approximatif, on va dire. On a néanmoins réussi à découvrir un épicéa de plus de 9500 ans en Suède. C'était quand même assez intéressant. Et en tout cas, avec cette technique, on va pouvoir en savoir un petit peu plus sur les arbres. Et quelque part, on peut aussi, en étudiant un petit peu les cernes, avoir une idée sur l'environnement, sur l'atmosphère qui existait à cette époque. Et au moins, préserver les arbres, parce que c'est un petit peu idiot de les couper pour pouvoir ensuite savoir quel âge il avait avant qu'il tombe. C'est un petit peu dommage tout ça. Allez, je vous disais qu'on avait écouté Inguana Death Cult, on va écouter un autre titre, c'est Lorraine, cette fois sur l'antenne de Graphite. À tout de suite. Voilà, c'était donc Inguana Death Cult sur l'antenne de Graphite. Pour continuer de feuilleter un petit peu l'actualité scientifique, on va s'arrêter quand même à les découvertes qui ont été faites en 2019 sur le corps humain. Même si on étudie notre organisme depuis des siècles, on sait bien sûr que notre corps n'a pas livré tous ses mystères et on a encore beaucoup à découvrir sur nous-mêmes. Et l'année 2019 a apporté son lot de découvertes et de nouveautés concernant la biologie humaine. Et il y a eu donc plusieurs mystères du corps humain qui ont été révélés en 2019. Alors, par exemple, il y a des vaisseaux sanguins qui traversent les os. Bien que la dénomination soit inspirée des cheveux, bien sûr, et bien les capillaires sanguins sont bien plus fins que ces derniers. Les vaisseaux sanguins ont un diamètre très petit et ils se structurent en filets denses qui entourent les organes pour les alimenter en oxygène, en eau, en nutriments. Et bien, en janvier l'année dernière, il y a un an, des chercheurs ont observé un réseau de capillaires jusqu'alors insoupçonnés qui traversent les os. Cette découverte a d'abord été faite chez la souris. En observant le tibia d'une souris, les chercheurs ont remarqué des centaines de pores microscopiques par lesquels passent les capillaires sanguins. Et ils ont par la suite confirmé que ce réseau de vaisseaux sanguins existait aussi chez l'homme. La moelle osseuse, qui est située au cœur des os, est le lieu de naissance des cellules sanguines, à savoir les globules rouges et les globules blancs, les lymphocytes, les plaquettes. Mais les scientifiques ne savaient pas comment ces cellules quittaient la moelle osseuse pour rejoindre la circulation sanguine. Et bien, les chercheurs ont donc rendu transparents les os d'une souris pour savoir si le réseau qu'ils ont identifié servait de voie de sortie un petit peu aux cellules qui étaient créées dans la moelle osseuse. Et bien, bingo, ils ont observé le sang circuler à travers l'os Mars grâce à un microscope, et ce réseau qui était autrefois inconnu porte désormais le nom de vaisseaux transcorticaux, et ça a été découvert, j'allais dire, seulement en 2019. Autre chose, et on l'avait évoqué dans Biotine l'année dernière, même l'athlète le plus entraîné est limité par le seuil d'endurance du corps humain. C'est le constat qui avait été établi par des chercheurs américains en juin dernier. Leur étude suggère que la limite de l'endurance humaine est équivalente à 2,5 fois le taux métabolique basal du corps, ce qui équivaut à peu près à 4000 calories quotidiennes pour un humain moyen. Et le taux métabolique basal est défini par la quantité d'énergie nécessaire au corps pour assurer ses fonctions physiologiques de base, comme la respiration ou le maintien de la température corporelle interne à 37 degrés. Alors, pour déterminer cette limite, le taux métabolique des participants à une course d'endurance extrême, c'est la Race Across the USA qui dure 5 mois et fait le lien entre la Californie et l'État de Washington, eh bien, le taux métabolique de ses participants a été mesuré avant et après l'effort, ainsi que le nombre de calories brûlées. Et ces données ont été ensuite croisées entre elles, et on a également pu essayer de faire des liens avec d'autres événements sportifs longs, comme par exemple le Tour de France. Et étonnamment, les chercheurs en ont conclu que plus l'effort était long, plus il était difficile de brûler des calories. Alors évidemment, les athlètes ne s'arrêtent pas subitement quand ils dépassent le seuil de 2,5 fois le taux métabolique basal. Seulement, l'organisme commence à puiser dans son énergie de réserve, ce qui conduit à une perte de poids intenable sur la durée. Il y a donc une limite de l'endurance humaine. C'est ça qui était assez intéressant et qu'on a découvert également en 2019. Autre chose, c'est la découverte d'un nouvel organe sensoriel en 2019. Hein. Tous les manuels d'anatomie s'accordent pour répertorier 78 organes chez l'être humain. Pourtant, il est compliqué de les dénombrer selon la définition que l'on entend pour le mot « organe ». C'est ainsi que le mésentère, qui est connu depuis longtemps, n'est devenu un organe qu'en 2017, suivi de l'interstitium en 2018. Eh bien, l'histoire s'est répétée l'année dernière, précisément au mois d'août, avec un ensemble de cellules impliquées dans la sensation de douleur, et des cellules qui sont situées sous la peau. Et ces cellules sensitives étaient déjà bien sûr connues des scientifiques, mais ils n'avaient jamais identifié leur rôle dans le ressenti de la douleur par la peau, qui était autrefois attribué uniquement aux nerfs. Et ce nouvel organe, c'est une espèce de maillage de cellules qu'on appelle les cellules de Schwann, et un maillage avec des nerfs, et donc du coup elles sont connues pour isoler électriquement un petit peu le système nerveux, et on s'est rendu compte qu'elles avaient, ces cellules, un vrai rôle dans le cadre de la sensation de douleur. Et du coup on a décidé en 2019 de considérer ces cellules comme étant un organe à part entière. Et donc, on a déterminé un nouvel organe en 2019. Autre chose, on s'est intéressé également l'année dernière à ce qu'on appelle les super centenaires, les personnes âgées qui dépassent les 110 ans. Elles sont définies comme donc des super centenaires, le qualificatif super n'est pas totalement superflu parce qu'elles ont un véritable pouvoir secret révélé par une étude japonaise parue à la fin de l'année, on l'avait évoqué en décembre dans Biotine. Selon les chercheurs japonais, les super centenaires possèdent une concentration sanguine particulièrement élevée d'un lymphocyte rare. Alors habituellement le rôle des lymphocytes T est justement d'aider les cellules immunitaires en sécrétant des cytokines lors de l'inflammation. Eh bien, on s'est rendu compte que dans le cadre de ces super centenaires, ils avaient une façon un petit peu particulière de pouvoir réagir au niveau de ces lymphocytes T. Ils sont capables d'éradiquer eux-mêmes les cellules ennemies en sécrétant d'autres substances directes et peuvent aussi s'attaquer aux cellules cancéreuses. Et on peut être que ça serait un lien avec cette longévité assez extraordinaire de plus de 110 ans. On aurait peut-être donc percer le secret des super centenaires. Ça serait intéressant. C'était tout ça, c'était en 2019 au niveau médecine et j'avais pas eu le temps de l'évoquer pendant les émissions précédentes de janvier. Et donc là, comme on est encore en janvier 2020, on peut se permettre de voir ce qui avait été annoncé, révélé et évoqué dans cette émission Biotine sur les secrets du corps humain qu'on a enfin pu découvrir et on en découvrira sûrement d'autres par la suite et bien sûr vous serez toujours tenus informés grâce à cette émission Biotine sur l'antenne de Graphite. On écoute un dernier titre avant de nous quitter. On va écouter, je vais récupérer pardon le disque, ça va être Atom sur l'antenne de Graphite. On se retrouve juste après, à tout de suite. Hysteresis, ça c'était A2M sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informé de l'actualité scientifique. Et vous avez bien raison, on se retrouve tous les samedis et on essaye d'apprendre plein de choses. Alors deux éléments liés un petit peu à la médecine et à la génétique avant de nous quitter. Première chose concerne le riz. Donc vous êtes en train de manger peut-être du riz, donc ça va pouvoir vous intéresser. Avec à peine 3,7% d'obèses, le Japon est le champion du monde de la minceur. Il est connu depuis longtemps que le régime asiatique à base de riz, poisson et soja contribue à prévenir le surpoids. Une allégation confirmée par une nouvelle étude présentée lors du congrès européen contre l'obésité en 2019 et qui confirme que le riz est un moyen efficace de lutter contre cette pathologie. Les chercheurs ont comparé la consommation totale de riz sur toutes ses formes, le riz blanc, le riz brun, la farine aussi, dans plus de 130 pays. Ils ont constaté que ceux où la consommation est supérieure à 150 grammes par jour ont un taux d'obésité plus faible que celui des pays où elle est inférieure à 14 grammes par jour. En tête figure ainsi le Bangladesh avec 473 grammes de riz par jour et par habitant, tandis que la France arrive en queue de peloton avec seulement 15 grammes par jour et par personne. Selon les calculs des chercheurs, manger 50 grammes de riz par jour et par personne permettrait de réduire la prévalence de l'obésité mondiale de 1%. L'explication avancée, c'est que les fibres et les nutriments présents dans le riz donnent une sensation de satiété et réduisent ainsi le risque de trop manger. Bien que l'étude ait pris soin d'éliminer certains biais comme le niveau d'éducation, le tabagisme, les dépenses de santé, le niveau total des apports caloriques, eh bien, il apparaît quand même cependant un peu prématuré d'en tirer des conclusions hâtives parce que la France, justement on évoquait la France tout à l'heure, la France revient dans cet article en expliquant que la consommation de riz est l'une des plus faibles au monde, d'accord, mais elle affiche pourtant un taux d'obésité relativement modeste de 15%. Donc il n'y a peut-être pas nécessairement une corrélation évidente. En réalité, un aliment à lui seul ne peut pas suffire à expliquer l'obésité ou le diabète, qui sont liés à des facteurs multiples dont l'identification et l'implication sont encore difficiles à établir. Si le régime asiatique est souvent vanté pour ses bienfaits, c'est surtout parce qu'il est pauvre en graisse et aliments transformés et plutôt riche en fibres. Ce serait peut-être ça la raison, mais pas nécessairement le fait que ne manger plus de riz pourrait réduire l'obésité, sinon ça se saurait. Ça, c'est l'article numéro 1. L'article numéro 2 concerne une étude de généticiens de l'université américaine Northwestern. Dans une étude publiée il y a quelques semaines dans la revue Human Molecular Genetics, en fait, ces généticiens ont cherché à identifier les gènes qui vont gouverner nos préférences de boissons. Au départ, ils se sont naturellement orientés vers les gènes du goût, mais à leur surprise, ils ont découvert que les préférences des gens variaient en fonction d'autres gènes que ceux du goût. Il s'agissait en réalité des gènes liés aux effets psychoactifs des boissons. Les gens aiment la façon dont le café et l'alcool les font se sentir. C'est la raison pour laquelle ils en boivent. C'est ce qu'explique Marilyn Cornelis, qui est l'auteur de cette étude. Pour l'étude, en fait, les scientifiques se sont intéressés au profil génétique de plus de 330 000 personnes d'origine européenne et tout cela a été enregistré dans une base de données. Ils leur ont fait remplir un questionnaire qui énumère un petit peu leur consommation sur 24 heures. Ils ont réparti les boissons consommées en deux groupes, celles qui sont plutôt considérées comme amères, le café, le thé, le jus de pamplemousse, le vin rouge, les alcools forts, et celles qui sont considérées comme sucrées, les sodas, les jus de fruits, bien sûr. Et les chercheurs ont ensuite cherché des associations entre les génomes des participants et leur consommation de boissons. Le goût peut être un facteur, mais c'est un goût acquis. L'amertume du café nous conduirait normalement à l'éviter d'un point de vue d'évolution, bien sûr, mais nous le consommons car nous avons appris à confondre le goût avec l'effet caféiné. Les humains auraient appris à surmonter l'amertume pour la récompense mentale fournie par la caféine. Et les chercheurs admettent qu'une limite de leur étude est qu'ils n'ont pas pu prendre en compte le sucre et le lait éventuellement ajoutés au café par les participants. Alors, quel est l'intérêt de localiser ainsi les mécanismes d'attraction envers le café et l'alcool ? L'idée, c'est que ces travaux pourrait un jour conduire à une manière de traiter des patients dont les habitudes alimentaires deviendraient nocives. Si on veut intervenir contre certains comportements, il faut prendre en compte les effets psychoactifs, hein, c'est ce qu'explique Marilyn Cornelis. Cela pourrait être une barrière au changement de comportement des gens. Tout le mystère des préférences humaines n'est cependant pas levé, loin de là, parce qu'on s'est rendu compte qu'une mutation d'un gène était à la fois liée à une préférence pour les boissons sucrées et un risque réduit d'obésité, ce qui peut paraître contradictoire. Tout ce que la chercheuse peut dire est que ce gène est un mystère et qu'il joue probablement un rôle dans le comportement qui pourrait être lié à la gestion du poids. Donc voilà, on sait que si on aime la bière ou le vin, c'est pas nécessairement par goût et qu'il y a d'autres facteurs génétiques qui sont pris en considération. Bah, vous voyez, finalement, on aura appris des choses dans cette émission encore aujourd'hui sur l'antenne de Graphite. Je vous souhaite un bon appétit. Mangez du riz, buvez ce que vous voulez, tout ce que vous plaît, avec modération. Faites du sport. C'est un petit peu la conclusion de ces différents articles d'aujourd'hui. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle émission de Biotine sur l'antenne de Graphite. Je vous remercie de votre attention. Vous restez fidèles, bien sûr, aux émissions de Graphite que vous retrouvez sur graphite.net, le site internet, et sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM dans l'Aisne, l'Oise et la Somme. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir.